Je me trouve à présent dans la cour du château de la Renaudie sur la commune de Saint-Front-la-Rivière avec son propriétaire que l'on retrouve 6 mois après sur notre antenne puisqu'on s'était rencontré lors des journées du patrimoine. Jean-Marie Soulard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accueillir une nouvelle fois Liberté FM.
Avec grand plaisir.
Pour faire un petit point, on ne va pas refaire l'histoire puisque on en avait déjà parlé ensemble en septembre dernier, mais faire le point sur les travaux en 6 mois qu'avez-vous fait pour inciter celles et ceux qui nous écoutent à venir vous voir puisque vous ouvrez ce château de la Renaudie à la visite dans le cadre de Château en Fête. On en dira évidemment un mot ensuite. Donc, où en êtes-vous de cette restauration, en tout cas de ce nettoyage, parce qu'il y avait une végétation très dense?
Alors, pour le moment, c'est plutôt du nettoyage que de la restauration. On a fini de nettoyer la cour, qui fait 900 mètres carrés, où il n'y a plus. Il y a quelques arbres qui poussent encore, mais on peut aller partout maintenant, on peut camper plus ou moins partout. On a rouvert l'ancienne porte cochère, donc où il y avait le pont-levis, où il y avait un mur de 2 mètres qu'on a cassé, on a un peu déblayé pour pouvoir y rentrer. Et le but de cette année, c'est de refermer quelques trous, par là où les gens rentraient depuis, de faire 2-3 planchers dans les tours. Et puis pour cette nouvelle année, en attendant d'avoir plus de fonds, ce ne sera pas si mal déjà, je pense. Et puis de finir de nettoyer, encore des scouts qui viennent en juillet pour camper dans les bois alentours et puis faire des feux dans le château et leur préparer du bois pour qu'eux ils puissent avoir tous les moyens pour faire leur camp avec voilà.
C'est un château que vous souhaitez ouvert au public, comme par exemple avec ce camp scout qui vient, ou encore pour les journées du patrimoine, ce sera peut-être le cas en septembre, mais en tout cas prochainement pour les journées du patrimoine. Vous souhaitez que le public découvre ce château, ces ruines, parce qu'aujourd'hui ce sont des ruines.
Le but est aussi de faire connaître un peu l'histoire du château, et que je ne veux pas le garder pour moi, parce que garder pour moi ça ne sert à rien. Donc c'est de faire partager un peu ce que j'aime dans ce château, le pourquoi je l'ai acheté, savoir que...
Il appartenait à votre famille, on va en dire un mot.
Tout à fait, c'était à mes ancêtres, les deux Barry de la Renaudie, pour ne pas les citer. Donc le fameux Jean de Barry de la Renaudie qui a fait la conjuration d'Amboise en 1560, qui a été décapité à Amboise, et sa veuve, Guillemette de Louvain, qui l'a récupéré après. Ils avaient 4 enfants, et après c'est passé la famille de Périus Descartes, très connue à l'époque, et dont le descendant actuel est Guy Descartes, pardon, qui est un écrivain assez connu, qui descend de... Ses ancêtres ont vécu au château aussi. Voilà. Et les Périus Descartes sont du sud de Limoges. Et si on regarde bien sur la façade aujourd'hui du château, en haut de la fenêtre qui est fenêtre Renaissance, il y a une hermine. Et ce sont les deux Péris de Car qui ont refait cette fenêtre. Et l'hermine, ça vient de leur origine bretonne.
Donc c'est un château qui a eu une vie intense à un moment donné, quasi royale.
Royale peut-être pas, mais importante. Guillemette de Louvain, celle dont je parlais tout à l'heure, était la meilleure amie de la reine de Navarre. Et la reine de Navarre, c'était la mère d'Henri IV, qui à l'époque n'était pas Henri IV. Jeune d'Albret, et c'était sa meilleure amie. Donc il est possible, comme Henri IV, à l'époque Henri de Navarre, était comte de Périgord, il est possible qu'en amenant sa mère en voyage ici, elle ait pu dormir ici, et on peut supposer que la chambre qui est au premier étage, qui n'existe plus aujourd'hui bien sûr, est dite chambre du roi. On peut imaginer, peut-être pas Henri IV, Henri de Navarre à l'époque, mais que sa mère ait dormi là. Comme ils étaient amis, la reine de Navarre et Guillemette de Louvain étaient les meilleurs amis du monde. Comme aujourd'hui, les meilleurs amis ils se rencontrent, ils se voient. Et comme c'était un endroit ultra protégé, parce que quand on voit un peu le château aujourd'hui, on peut imaginer que c'était une sorte de repère pour elle, pour être tranquille et pas assaillie de quémandeurs ou même être assassinée.
L'allée par laquelle on arrive, c'était l'allée d'origine? Ou est-ce qu'elle a été créée pour des raisons diverses à un moment donné pour accéder à des champs qui sont autour ou à ce château et à ses ruines?
La Belletrie, donc le village qui est juste à côté, appartenait au château. Donc il est fort supposé. Alors c'était pas le château, un chemin aussi important. Le chemin important n'existe plus aujourd'hui. Il était en face de la porte cochère, donc là-bas. Et c'est un chemin qui allait du village jusqu'au château. Et autour du château, il y avait des chais, il y avait des maisons pour que les gens, comme la principale ressource du château était le vin, donc il y avait des vignes tout autour. Donc on peut supposer que tout ce qui était autour, il y avait des maisons, il y avait un petit village à la Renaudie, enfin un peu plus bas dans les champs qui n'existent plus maintenant, et où il y avait des maisons, mais la billetterie, on a des documents où il y avait des gens qui vivaient là et qui dépendaient du château. Comme le Sablon en bas, comme le Canot, comme Toussaint-Front, comme une partie de Quinsac, comme Champagnac, une partie de Villars, une partie de Saint-Pardoux, Sault-Saint-Angèle, appartenait au château. Enfin, au château. Il y avait des propriétaires, bien sûr, mais les terres, il y avait des métayers qui appartenaient, au château.
Il y a d'ailleurs, peut-être pour s'en rendre compte de l'état du château au moment donc de sa splendeur, une restitution qui a été faite en 3D par Dominique de Villegégou.
Ah, c'est pas Dominique de Villegégou, c'est Dominique de Villegégou. Oui, tout à fait. Oui. Il nous a beaucoup aidé dans les recherches du château parce que c'est lui qui a fait la reconstitution 3D et on peut voir grâce à lui ce à quoi ressemblait le château avant. Ce qui est au niveau recherche historique un grand pas.
Parce qu'il a trouvé des documents qui permettent de réaliser cette restitution.
Tout à fait. Et puis, quand on rentre dans le château, on peut prendre des mesures pour savoir à quoi ça ressemblait au niveau mesure, déjà. On sait que la cour intérieure, là où nous sommes aujourd'hui, fait 900 mètres carrés. Pour une cour intérieure, c'est assez gros quand même. Après, il faut savoir que tout autour de la tour, il y avait des dépendances. Il y avait eu des écuries, des boulangeries, une forge, un charnier, enfin je ne vais pas tout citer, mais il vivait en autarcie ici. Il n'avait pas besoin d'aller à droite à gauche, il avait tout ici.
Les moyens de locomotion n'étaient pas les mêmes non plus, donc il valait mieux avoir tout sur place.
On est d'accord, puis pareil, dans les années au 18e, c'était une baronnie. Une baronnie, c'est une baronnie.
Ça avait son importance.
Ouais, c'est pas la petite maison du chevalier, même si j'ai rien contre. C'est, ça restait une baronnie, donc quelqu'un important qui vivait à la cour. Même Guillemette de Louvain, donc la veuve de Jean du Barry la Renaudie, donc en 1560, elle est partie à Paris, elle vivait à la cour chez Madame de Soubise. Madame de Soubise, c'est la maison royale. On a des courriers où elle vivait bien là-bas, quoi. Donc c'est pas non plus, c'est pas Polo, le clampin du voisin, quoi. Même s'il faut de tôt, il n'y a pas que ceci. Donc c'était assez important. Il y avait après avec les siècles, jusqu'à la Révolution, ça a décliné parce que les seigneurs vivaient à la cour. Donc ici, il n'y avait plus qu'un... cherche le mot, je n'ai pas trouvé. Quelqu'un qui vit là, qui faisait vivre le château.
Un genre de gardien.
Pas un gardien. Il était notaire. Il était notaire de Saint-Pardoux, donc il n'était pas non plus n'importe qui. Je n'ai pas trouvé. quelqu'un qui faisait vivre le château, voilà.
Qui surveillait en tout cas le site.
Tout à fait, qui percevait les taxes, qui...
Donc un château qui, après la Révolution, est tombé à l'abandon.
Il est tombé un peu à l'abandon un peu avant, mais c'est la Révolution qui a fait le plus de mal. Et puis, comme beaucoup d'endroits, comme l'abbaye de Beauchau, qui est pas loin d'ici, ça a été récupéré, on va pas dire volé, mais pour moi, je veux dire volé, par la République, qui en a fait un bien national et qui l'a vendu à des paysans du coin pour faire une carrière. D'où la déchéance complète du château. Mais à l'époque, il y avait encore le toit, il y avait encore... Mais quand on fait une carrière d'un château ou d'une abbaye, toutes les belles pierres, encore moi j'ai encore des restes, s'en vont.
Bien sûr.
Donc c'est là où c'est vraiment la République qui a fait le mal, comme dans beaucoup de châteaux en France, pas que en Dordogne, partout en France. Voilà.
Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de restaurer ce château.
Tout à fait, c'est de le restaurer.
Éviter que les ruines...
Alors déjà, c'est de le sauvegarder, déjà. Ça, c'est la première chose. Bon, nettoyer, c'est à peu près fait. De le sauvegarder, donc essayer d'enlever toutes les pousses d'arbres qui poussent un peu partout, et entre autres en hauteur. Et après, c'est j'ai des amis dans le coin qui viennent pour Château en Fête, qui sont tailleurs de pierre, pour me donner des pistes pour retrouver des pierres, et puis même en fabriquer des nouvelles pour éviter que ça tombe encore plus. Voilà.
Donc, on peut imaginer que sous nos pieds, il y a des pierres du château ou c'était vraiment le sol d'origine?
Alors, non, là, il faut creuser entre 80 cm et 1 mètre de profondeur et il y a le sol originel. De ce que m'a dit l'ancien propriétaire, sa famille a eu le château pendant 100 ans à peu près, il y aurait du dallage dessous. Mais dessous.
Donc
il, ben voilà.
Ça fait partie des projets de l'année ou plus tard ça?
Ça dépend le matériel que je peux avoir. Voilà. Je peux pas dire beaucoup mieux. C'est non, ça dépend du matériel. Là autant pour le puits creusé ça va, que c'est un endroit assez restreint. Après ouais c'est grand hein.
C'est grand.
Donc voilà.
Absolument. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, on va leur conseiller de venir vous voir, et notamment pendant cette opération Château, en fait. Alors c'est la première fois que vous y participez. Qu'est-ce qui vous a incité à ouvrir donc ces ruines pour cette opération?
J'ai été invité.
Mais des fois on peut refuser.
Oui, mais l'idée m'a plu, et puis comme le château est en ruine, il y a des parties très anciennes. Le château a en gros 1000 ans. Donc, étant moi-même, pas médiéviste, mais très intéressé par cette époque, je vais faire ici, dans la cour et autour, un village médiéval. Donc, avec tailleur de pierre, forgeron, tailleur de bois, travailleur du cuir, j'aurai de la bijouterie ancienne, j'ai un vannier, j'ai une chapuiseuse. Ah, bah oui, hein, une chapuiseuse. La chapuiseuse, c'est quelqu'un qui récupère dans les bois ou ailleurs des bois tordus et qui les travaille pour en faire des bijoux, pour en faire. Elle a fait un arc, elle a fait des bougeoirs, et donc elle va présenter ce qu'elle fait et elle va travailler devant tout le monde. Le but c'est aussi que les gens qui viennent, donc les artisans, viennent montrer ce qu'ils font. Il y aura une taverne bien sûr, parce que qui dit village dit taverne. Hein. Et puis on va tâcher de faire revivre tout ça. J'ai quoi d'autre? J'ai une potière qui vient, c'est pour ça que j'ai vu le papier. Un tisserand normalement, j'ai travaillé ce que j'ai dit. Peut-être une dépicerie, j'ai du miel. Alors ça, le miel c'est plus... Mais bon, c'est plus commun, mais...
C'est important.
C'est important. Peut-être de l'épicerie fine. Et puis, et surtout, j'ai des groupes d'amis qui font de la reconstitution historique et qui font de la joute. Donc j'aurai un camp médiéval installé en dehors du château avec des trèfles et puis avec des chevaux. Et ils feront de la joute.
Très bien.
Et j'ai des jeux pour enfants, dont une promenade à poney ou à mule. Pour plus, il y a un tas de jeux qu'on a créés pour les enfants. Voilà.
Alors donnez-nous les dates.
Eh ben, c'est le 11 et 12 avril, le premier week-end de château en fait. Donc nous on sera là à partir de jeudi pour commencer à installer les gens. Et dans la cour, on aura donc une quinzaine de stands. Quand je dis stands, c'est tout compris, hein. Entre la taverne, avec les tables, avec tout ça, voilà. Et puis il y a encore la cuisine où on peut installer du monde, et la salle à manger, tout ça, où on peut installer du monde. Voilà.
Très bien. Et il y aura quand même aussi des visites.
Bien sûr, il y a 3 visites prévues par jour, parce qu'une visite fait à peu près 1h30. Les horaires, dans mes souvenirs, ça va être 9h30, 11h, ah non il y en a 4, 9h30, 11h, 14h et 15h, 16h, dans mes souvenirs.
Il suffit de toute façon de se reporter à la publication de l'Office de tourisme, par exemple de Brantôme, et dans les publications et les suppléments presse. Hein.
Et puis sinon, il y aura du monde qui sera là, ma famille, moi j'ai des amis et de la famille qui viennent pour m'aider, que tout seul je ne pourrais pas tout faire. Et on sera tous habillés en tenue, et puis on sera là pour les gens. Et puis il y aura tous les stands où les gens peuvent venir voir la forge, voir le travail du cuir, voir les tailleurs de pierre, et voir tous les stands qui seront là aussi pour faire de la présentation, et voir comment ils travaillent. Donc c'est très intéressant.
Bien sûr.
Surtout que dans la commune, donc Saint-Front-la-Rivière, je crois que c'est la première fois qu'il y aura une fête médiévale.
Très bien.
De ce que je sais.
La Renaudie va revivre.
C'est un peu le but. C'est pour ça que je me suis présenté quand je suis venu la première fois à mes voisins pour leur dire que j'étais le nouveau propriétaire d'ici et que je voulais faire revivre ici pour justement redonner un petit cachet. Et puis c'est quand même mieux quand c'est dégagé, on peut rentrer. Que...
Bien sûr, c'est plus agréable.
C'est plus agréable et puis, ouais, puis ça donne de la vie. Puis Saint-Front-la-Rivière est une petite commune. Mais c'est quand même la commune où, à une époque, il y avait 7 châteaux ici. 7 châteaux dans une petite commune comme Saint-Front-la-Rivière. J'aimerais savoir s'il y a mieux. Bon, il n'y en a plus que 5. Hein.
Dont la Renaudy.
Dont la Renaudy, qui est le plus vieux, mais le plus cassé.
Et qui s'ouvre, on le rappelle, pour ces deux week-ends de l'opération Château. En fait, il y aura, me semble-t-il, une autre opération au mois de juin.
Oui, alors ça, c'est pour un groupe qui s'appelle l'ERPED, je crois. C'est un groupe qui fait de la... Ils aident pour la sauvegarde des vieux bâtiments. Et le président m'a contacté pour savoir s'il pouvait venir manger ici. J'ai dit, avec grand plaisir. Donc, fait par Dominique Villevégout à Saint-Front, ils ont une rétrospective en 3D du château. Et ils viennent après ici et moi, je leur présente le château, enfin, ce qui reste. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Marie Soulard. On peut retrouver de toute façon des informations, l'actualité de ce château de la Renaudy sur le net ou les réseaux sociaux.
Tout à fait. Donc il y a avec Château en fait, il y a forcément tous les renseignements qui sont nécessaires. Et il existe une page Facebook qui s'appelle Château de la Renaudy tout simplement, où je mets tout ce que je fais plus ou moins au château. Alors, quand je dis tout ce que je fais, quand j'enlève une racine, non. Mais globalement, oui. Voilà.
Merci beaucoup, une nouvelle fois, très bientôt, parce qu'on va suivre sur Liberté FM l'avancement de ces travaux.
Avec grand plaisir.
À bientôt.
Avec grand plaisir, Pascal.